Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h46, c'est le petit déjeuner de l'actu. Elisabeth Lévy, Éric Revel et Arlette Chabot. Ce matin, on va parler de la campagne de communication du gouvernement, on va parler de vaccinodrome.
Oui, et avant ça, donc la revue de presse comme chaque matin, et à la une de la dépêche du midi, hein, Benjamin Glaise, ce titre, l'Occitanie menacée par une troisième vague.
Bah oui, alors que 16 départements sont pour l'heure confinés, l'inquiétude gagne d'autres régions, dont effectivement l'Occitanie, mis à part le Gers et la Haute-Garonne, l'ensemble des départements de la région connaissent une hausse des taux d'incidence. Situation particulièrement alarmante, nous dit-on, notamment dans le Gard. Dans ce contexte, une question à la une de Libération, vaccination de masse, pourquoi pas nous, alors que les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël piquent à tour de bras. Seuls 2 400 000 Français ont reçu leurs deux injections. Mais la France compte bien accélérer avec 35 vaccinodromes donc déployés par l'armée et les pompiers d'ici le mois prochain.
Oui, à propos d'Israël, d'ailleurs, nous serons en duplex tout à l'heure à 10h moins le quart pour voir comment ça se passe et comment ont-ils fait là-bas. D'autant qu'aujourd'hui, il y a une journée électorale et le scrutin va se dérouler normalement. Quand on regarde les journaux, il y a le Figaro aussi, Benjamin, qui de son côté s'intéresse à l'ultra-violence des jeunes délinquants qui se banalisent, cette ultra-violence.
Oui, tout un dossier sur CRX, agression, règlement de compte. Le Figaro qui s'est procuré en fait une synthèse quotidienne de la sécurité publique. Elle livre heure par heure le récit glaçant d'une police de région parisienne aux prises avec des délinquants, nous dit-on, tout juste sortis de l'enfance. Une violence sans limite et de chaque instant devenue constitutive de l'identité de ces ados, comme l'explique une pédopsychiatre dans les colonnes du Figaro.
Oui, et on poursuit avec l'accusatrice de Patrick Poivre d'Arvor qui prend la parole dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Avec notamment ces mots, j'ai tout à perdre mais j'ai besoin qu'il réponde de ses actes. Après sa plainte déposée pour viol, Florence Porcel ajoute, si c'était juste pour la publicité, je peux vous dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle. En 2009, raconte-t-elle, elle avait déjà pensé à porter plainte mais à 25 ans, elle pensait que personne ne la croirait et que s'afficherait sa vie en l'air face aux accusations. En tout cas, l'ancienne star du 20h de TF1, Patrick Poivre d'Arvor dénonce de son côté des inventions totales.
Oui, merci. Et puis dans le Sud-Ouest, la guérilla des anti-5G.
Oui, la Dordogne qui évoque l'obscur, en tout cas en Dordogne, on évoque l'obscur guérilla qui s'est installé dans le département. Au total, 5 émetteurs d'EDF ont été attaqués, tandis que des dizaines d'antennes relais sont prises pour cible par de mystérieux saboteurs. Des sabotages très bien organisés, nous dit Sud-Ouest, qui explique que les soupçons pèsent sur la nébuleuse de l'ultra-gauche.
Oui, absolument. Et donc, c'est pas nouveau. Hein. Il y en avait eu dans d'autres régions également. C'est vrai. Merci, Benjamin. On enchaîne avec la Provence et Frédéric Chetin qui est avec nous, chef des informations générales au journal à Marseille. Bonjour Frédéric Chetin.
Bonjour à vous.
Bon, il y a ces suites du carnaval de la Plaine à Marseille. Vous en parlez, vous y revenez forcément aussi encore ce matin.
Hein. Bah, oui, évidemment, c'est notre gros titre sur l'édition de Marseille. Parce que c'est vraiment des événements très très choquants qui se sont produits, choquants à plusieurs titres, choquants parce que il n'y avait aucune distanciation sociale, 6500 personnes qui défilent dans la rue, les yeux masqués mais la bouche ouverte pour la majorité d'entre eux. On redoute maintenant un cluster, on redoute aussi que ça n'entraîne un confinement de la ville, dans les tout prochains jours. Choquant parce que cette manifestation à laquelle j'étais tout à fait au début, puisque j'habite le quartier, était une manifestation pour bon enfant, avec des déguisements. Tout le monde comprend le besoin de sortir. Mais comme d'habitude, c'était pris en fin de manifestation par une minorité de casseurs ultra violents qui ont dégradé tout ce qui a été fait. La place sur laquelle partait la manifestation est une place qui est en cours de réflexion depuis des années. Ça coûte, comme dirait le président, un pognon de dingue.
Ouais.
Et tout est absolument détérioré. Des tacs partout, des bouteilles cassées partout, les plates-bandes piétinées. Enfin, les barrières qui ont été renversées, c'est un cauchemar. Ça s'est poursuivi jusqu'au Vieux-Port avec des dégradations de vitrines brisées, des voitures cassées. La rue d'Aubagne, des gens n'ont trouvé rien de mieux que d'aller uriner à l'endroit où sont morts les gens qui ont perdu leur vie dans l'effondrement de l'immeuble il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. Donc, vous donnez l'ambiance, la ville est vraiment, vraiment sous le choc.
Oui. Frédéric Chetin, puisque vous y étiez dès le début, c'était quand même bon enfant au démarrage? Est-ce que les gens avaient les masques, les vrais masques, quoi?
Non. Il y avait beaucoup de gens qui avaient pas de masque, pas de masque.
Ouais.
Mais l'ambiance était sympa. Il y avait des orchestres, il y avait des gosses, des femmes avec des poussettes. Enfin, Et puis ensuite, bon, on voyait aussi énormément circuler de bouteilles de bière, de bouteilles de vin, mais après c'est carnaval, on peut comprendre qu'il y ait besoin d'une soupape de sécurité. C'est extrêmement difficile d'expliquer à des gens, il faut rester confiné, d'autant que le discours gouvernemental à ce moment, on dit, ah non, vous avez moins de risques dedans. Alors que les gens, du coup, le disent, mais nous, on est sortis. Mmh. Il y a sortir.
Ouais. Bon, d'un mot aussi, on suivra, puisqu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées,
tout à fait. Ça donne aussi lieu à une crise politique entre évidemment la droite et l'extrême droite à Marseille qui tape sur la municipalité et la municipalité qui n'est pas obligatoirement aidée par les siens, puisqu'on a vu, c'est France Bleu, nos confrères de France Bleu qui ont fait cette révélation, on a vu dans le défilé des élus. Oui. Des élus de la majorité municipale. Oui. C'est les mêmes élus qui avaient appelé à défiler pour le carnaval.
Oui.
Sa prise d'inconscience.
Oui. Ah, donc là, ça rajoute une couche pour Benoît Payan, qui évidemment n'était pas à l'aise hier matin, bien sûr. Il condamnait sur les réseaux sociaux, mais oui, bien sûr.
On le comprend, et la préfecture aussi qui nous dit on a fait ce qu'on a pu, il n'était pas autorisé. Oui, mais entre ne pas autoriser et interdire, il y a une chose. Et ça fait quand même des semaines que ce carnaval est répété tous les week-ends. Ouais. La veille, il y avait déjà des manifestations sur la place sans qu'il y ait la moindre intervention pour essayer de calmer un peu le jeu.
Oui. C'est à suivre, notamment avec ces informations que vous nous donnez, Frédéric Chetin, d'élus de la majorité municipale qui étaient dans le cortège, selon nos confrères de Radio France. Merci, Frédéric Chetin, d'avoir été avec nous en direct de Marseille, chef des informations générales à la Provence.
Et 8h53, le petit déjeuner de l'actu, dedans avec les miens, dehors avec les citoyens. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. On va en parler avec Elisabeth Lévy, Arlette Chabot et Éric Revel ce matin.
Là, c'était dehors, pas forcément en bon citoyen. avec ce que l'on vient d'apprendre des élus donc de la majorité municipale dans le cortège à Marseille, évidemment c'est choquant. On y reviendra tout à l'heure sur cette campagne et cette stratégie de communication. Sur l'autre stratégie, alors des vaccinodromes. Arlette Chabot, vous nous l'avez dit, c'est un revirement. Le gouvernement le dit pas, mais c'est quand même un revirement puisque il y a quelques semaines, il n'en était pas question des vaccinodromes.
Non, c'était même, vous savez. La référence, c'est 2009, la grippe H1N1. Donc, il y avait deux choses que le gouvernement voulait éviter. Des vaccinodromes, parce qu'il disait soit il y a des gens qui faisaient la queue dehors, il faisait froid, ou bien ensuite ils étaient vides parce que plus personne ne venait se faire vacciner. Donc, il faut oublier. Ouais. Et donc, il faut privilégier la proximité avec les médecins généralistes ou les pharmaciens.
Ouais.
Alors, quand on veut faire une vaccination de masse, forcément, on change d'avis, sans le dire, bien entendu, sans assumer cette évolution. Tout a toujours été prévu, organisé, vous l'avez bien compris. Et donc, on accepte les centres de vaccination qui existent déjà dans des municipalités.
Oui, il y en a quelques-unes qui ont mis en place.
Et puis, on va en créer quand même de grands centres de vaccination, parce que c'est le seul moyen. Si effectivement les doses arrivent massivement, comme le disent à la fois les ministres et le commissaire européen Thierry Breton, il va falloir que tout le monde se mobilise, tous ceux qui peuvent vacciner, y compris les militaires, les pompiers, dont aussi les militaires, on ne voulait pas il y a quelques semaines.
Oui, je vous entendais sourire, Elisabeth Lévy, pourquoi ?
Oh non, mais moi, j'ai pris le parti d'en rire, qu'est-ce que vous voulez ? Je trouve qu'on devrait faire un petit rap sur le slogan du gouvernement que j'arrive pas à mettre dans le crâne, là. C'est quoi ? C'est comment ? Avec les miens ? Non, dites-le-moi.
Dedans, avec les miens, dehors, en citoyen.
Merci, Elisabeth. J'essayais. Arlette, ça commence très bien. Et si vous voulez, non, mais on a une impression un peu désespérante de qu'on arrive avec les carabiniers, vous savez, à chaque fois, parce que j'ai entendu Olivier Véran sur notre antenne tout à l'heure. Il y avait un son où il disait oui, maintenant on va vacciner jour et nuit, le dimanche, les jours fériés, le soir, etc. Mais bon sang, pourquoi ont-ils mis un mois à décider cela ?
Parce qu'il n'y avait pas de dose de vaccin. Ça ne servait à rien de mettre des vaccinodromes à partir du moment où il n'y en avait pas suffisamment, non ? Éric Revel.
Et pourquoi n'y avait-il pas de dose de vaccin ? Parce qu'on s'en est remis à l'Union européenne et qu'on a attendu benoîtement, si vous voulez, que les choses se passent dans les règles et bien dans les délais, etc.
Oui, Éric Revel.
Oui, oui, et puis c'est pas gagné, ma chère Elisabeth, parce que vous avez vu le bras de fer entre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne. On a tapoté du poing sur la table pour dire on arrête d'exporter des vaccins européens vers la Grande-Bretagne. Et Boris Johnson, oui, on a tapoté du poing sur la table.
C'est très joli, j'aime bien cette expression.
Elle veut dire ce qu'elle veut dire. Je sais que vous aimez, Arlette et vous, ma chère Elisabeth, les euphémismes et les litotes, alors j'en use et on abuse, mais franchement, Boris Johnson, le roi du Brexit, ils regardent ça avec beaucoup d'amusement quand même, le bonhomme là-bas, parce qu'eux, ils vaccinent à tour de bras. Et puis juste un mot sur le slogan, parce que ça m'a aussi fait rire et j'ai autant de mal qu'Elisabeth à le retenir. C'est citoyen, comment c'est dehors
dedans, avec les miens, dehors en citoyen. Dedans, avec les miens, dehors en citoyen. Voilà, vous voulez, on va le chanter.
Je rajouterais pour Marseille et le carnaval, puisque des élus de gauche de la mairie, visiblement, ont défilé pendant ce carnaval. Oui. Eux, c'est dehors avec les citoyens, certains d'entre eux. Bah oui, mais là, ça, c'est dans le sud de la France, c'est un phénomène. C'est vraiment un truc qui marque les esprits, hein, je peux vous dire. Hein.
Ça, c'est grave.
Parce que 6500 personnes dimanche, rue de la Canebière, direction du Vieux-Port, vous imaginez le cluster gigantesque que ça peut entraîner quand même dans la cité phocéenne. On a quand même eu le maire adjoint communiste à la culture de la mairie de Marseille, je crois que c'est Jean-Marc Coppola, qui expliquait qu'il fallait comprendre la frustration des jeunes, hein, c'était ces termes. Là, je crois qu'il a peut-être raté une occasion de ne rien dire, parce que franchement, quand vous voyez les dégradations sur place que ce petit carnaval sans masque a occasionné, il y a de quoi quand même s'énerver quand on est un citoyen lambda et qu'on essaie de se protéger au quotidien contre ce satané virus.
Oui, c'est vrai. Allez, on va en parler encore dans un instant, hein, juste après la pause et le flash dans un instant, un petit rappel des grands titres. Et on y revient, dedans avec les miens, dehors en citoyen. Vous allez me le répéter, me l'écrire 10 fois, Elisabeth Lévy, et à la fin, vous le saurez.
Plus facile à chanter.
Mais Arlette Chabot va chanter mieux. Dans un instant. Restez bien à l'écoute, parce que c'est un moment unique. sur Sud Radio. Et on aura le publicitaire aussi, Franck Tapiro, qui sera avec nous. Ensuite, je vous le disais tout à l'heure, à 10h moins le quart, on ira en Israël, puisqu'on parle de vaccination avec une campagne de vaccination grandeur. Accélérée, absolument, et qui a marché à tel point qu'on peut maintenir les élections. Nous serons avec Benjamin Petrover, qui présente les grandes gueules du Moyen-Orient chaque soir là-bas, sur I24 TV News, c'est ça. Et puis juste avant aussi, on va s'intéresser
au reporter de guerre,
Anniva, une femme reporter dans la guerre, à travers donc un récit dans la gueule du loup d'une bande dessinée qui revient sur reportages en Tchétchénie, etc.
Et en Irak.
Avec du recul. Non, mais c'est particulièrement intéressant. On y reviendra tout à l'heure à 9h15.
Restez avec nous, on revient dans un instant.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h05, avec nous Arlette Chabot, Elisabeth Lévy et Eric Revel. Vos appels 0826-300-300 et déjà avec Martial qui nous appelle de Paris. Bonjour Martial.
Bonjour
Martial. Alors notre question du jour, c'est est-ce que le gouvernement a eu raison de faire appel à l'armée et aux pompiers pour organiser la vaccination, grosso modo pour ces vaccinodromes, hein. Vous êtes assez partagé sur les réseaux, 63% non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, mon cher Martial?
Alors moi, ce que j'en pense, c'est que non seulement le gouvernement a eu raison, mais à la limite, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas l'avoir fait avant.
Eh oui.
Voilà, parce qu'on ne peut pas à la fois, ou en même temps, dire que nous sommes en état de guerre, parce que je reprends les paroles du président, et en même temps, ne pas déployer une médecine de guerre. Et c'est-à-dire le déploiement de larges vaccinodromes, puisque le vaccin est quand même la clé à première vue pour l'instant de cette pandémie. Et même secondo, au niveau des lits en réanimation, on nous dit qu'il faut beaucoup de temps pour former un médecin et le personnel hospitalier à la réanimation. Mais je pense qu'en cas de guerre, justement, il y a une médecine de guerre où on traite comme on peut traiter. Et là, il y a un double discours. C'est le problème d'ailleurs pour moi du en même temps. Entre une dramaturgie à tort ou à raison de la situation, en parlant d'état de guerre, etc. Et en face, on ne met pas les moyens que l'on doit déployer en cas de guerre, et notamment ces vaccinodromes.
Oui, oui, Martial, c'est vrai, et vous avez raison. Sur notamment ce point, on avait dit dans un premier temps, il y a un an, il faudrait s'équiper, c'est long pour équiper, pour avoir davantage de lits de réanimation, pour former du personnel, mais c'est jouable, à tel point qu'on l'a réalisé hein, dans certaines régions. Je me souviens, dans le Grand Est, on a formé certaines personnes, etc. Mais c'est vrai que le personnel soignant, parfois aussi, est un peu désabusé. Des infirmières qui quittent le métier progressivement parce qu'elles n'ont pas eu non plus les primes qui étaient prévues, les 300 euros. Certaines n'ont touché que 150 euros. Donc c'est vrai qu'il y a les mots et puis les actes ne suivent pas toujours, quoi. Et sur les vaccinodromes, je pense, Martial, que là aussi, vous avez raison, il aurait fallu les mettre en place plus tôt. D'ailleurs, il y a plusieurs médecins spécialistes qui l'ont dit, des élus politiques. Sauf que, il y avait quand même un gros hic. On n'avait pas les doses, pas suffisamment de doses.
Bien entendu, ça c'est encore un autre problème. Ça. C'est tout le décalage entre une communication qui en plus est totalement vacillante, où les Français ne s'y retrouvent plus, et ensuite les actes d'une Europe qui montre toutes les limites du système, des moyens qu'on ne veut pas mettre en place, et puis on nous parle de ces lits de réanimation, c'est une saturation. Mais quand je vois qu'il y a 6000 lits en France pour 66 millions d'habitants, moi je me pose les vraies questions.
Oui, c'est vrai. On peut augmenter la capacité, on peut aller en avoir davantage, mais oui, c'est vrai qu'à la base, on avait un petit peu plus avec le privé, mais oui.
Oui, mais quand on est dans une politique de l'économie, d'accord, parce qu'on a voulu faire des économies surtout en espèces sur le milieu de la santé, mais alors oui, l'économie, mais c'est une économie qui nous coûte drôlement cher quand même, au final. Donc finalement, ces bons gestionnaires en perte de famille, et finalement, ils nous ont conduits à la catastrophe financière, sanitaire, et voilà, on est au bord du gouffre. Ouais. Et on a toujours des mots, de la communication, voilà, et puis aucun moyen en face. Et ça, je pense que les Français, j'en suis certain, en ont assez. Ouais. Moins de mots, moins de discussions et plus d'actions.
Alors, à propos de communication, merci hein, Martial pour votre appel. 0826-300-300, vous voulez réagir, vous voulez évidemment prendre la parole sur Sud Radio, parlons vrai, n'hésitez pas, vous l'aurez jusqu'à 10h et même bien au-delà. On parlait de communication.
On a un spécialiste, un consultant en com et en créativité, c'est Franck Tapiero qui est avec nous. Bonjour Franck.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour Franck Tapiero. Dedans avec les miens, dehors en citoyen. Je souris parce que tout à l'heure, Elisabeth Lévy n'arrivait pas à retenir un peu cette phrase. Est-ce que c'est un bon slogan de communication ?
Écoutez, c'est très compliqué parce que moi, c'est ma vie depuis 30 ans, hein, créer des slogans, et je sais la difficulté de résumer en quelques mots, petite phrase, une situation surtout en temps de crise. Donc moi, je suis plus indulgent que tous les commentateurs qui, d'ailleurs, plutôt que de commenter, devraient peut-être proposer des slogans. Ouais. Donc moi, j'essaie juste de vous expliquer comment ça se passe. En fait, d'abord, c'est un slogan qui appelle déjà au respect des gestes barrières. Donc déjà, première chose, comme tout le monde parle de ce slogan, je dirais, déjà le fait qu'on en parle veut dire qu'on va parler peut-être du respect des gestes barrières. Il y a surtout de la double responsabilité individuelle et collective pour éviter un reconfinement qui serait un peu plus dur que celui d'aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement, un bon slogan, c'est quoi ? C'est émotionnel, ça peut être engageant, positif, pour créer de la mémorisation. Donc je peux vous dire que là-dessus, ce slogan, je pense, est mémorisé déjà par tous les journalistes, même pour le railler un petit peu, même pour le critiquer, ce qui veut dire qu'il a peut-être réussi quelque part son effet.
C'est de faire causer, quoi. La communication, quand c'est réussi, c'est de faire causer. Oui, mais il ne faut pas que ce soit trop parodique. Quand même, si.
Alors, vous savez, moi, il m'arrivait de faire des slogans, vous savez, quand j'ai dans le Parisien, il vaut mieux l'avoir en journal, donc ça devient culte, ça a été vraiment raillé, ça a été un peu critiqué, les gens même du journal, mais bon, c'est vrai qu'il est resté pendant, ça fait 20 ans maintenant. Quand j'ai sorti Newt pour Ikea, je peux vous dire qu'au début, tout le monde me dit, mais ça va pas, un slogan suédois en France, c'est facile de critiquer, mais le slogan, c'est finalement quelque chose qui résiste d'abord à la critique, qui résiste au mode, qui résiste au temps, qui reste dans l'état d'esprit, et même des slogans qui étaient un petit critiqués, rappelez-vous, un petit clic vaut mieux qu'un grand choc, un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts, etc. Au début, mais tout le monde les critiquait. Ou alors, pour le loto, 100% des gagnants tentaient leur chance, peut-être le plus gros dans l'histoire. C'était critiqué par tout le monde, c'était considéré comme la pub mensongère, et pourtant, ça reste dans les esprits. Donc, moi, je suis beaucoup plus indulgent, parce que c'est mon métier. Ouais. Je ne sais pas si j'aurais fait celui-là, mais j'en ai pas d'autres. Il y en avait un autre qui était pas mal, c'est freiner sans enfermer. Au démarrage, je trouve que quand vraiment les nouvelles mesures sont freiner sans enfermer, pour moi, était plus un mode d'emploi qui montrait que, alors c'était dans le même temps justement, on pouvait faire comme du freinage dynamique en automobile. Ouais. Et le freinage dynamique, c'est quand on freine, on accélère d'une autre façon. Donc c'était intéressant. Ouais. Celui-là, ils ont essayé de mettre le mot citoyen dedans. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'on en appelle à la citoyenneté générale et individuelle. Parce que sans cela, bah, malheureusement, les prochaines mesures sont compliquées. Donc, encore une fois, les slogans utiles. Attention, oui. Rien ne remplacera un bon slogan. Rien. En politique, bon. Pareil, rien ne remplacera un grand slogan. Maintenant, bon, bah, qu'il soit critique ou pas, le problème, c'est est-ce qu'il dit les choses.
Oui. Donc, sur 10, vous lui donnez une note de combien ?
Alors, oui, c'est ça, petite note. Hein, sur 10.
Non, sur 10, non, mais je lui mettrai...
Allez, Franck,
Mouillez-vous un peu.
Non, mais je mettrai un petit 7 sur 10.
Ah, bah c'est pas mal, ça fait 14 sur 20, c'était quand on avait un 14, on disait, on est
dans la moyenne haute.
Mais vous savez pourquoi ? Parce que s'il n'était pas bon, on n'en parlerait pas ensemble ce matin.
C'est vrai, c'est vrai.
Il faut d'abord passer et briser, je crois que Cécile connaît bien ce métier.
Oui.
Bah oui, elle a travaillé longtemps dans la publicité. Et c'est briser la barrière de l'indifférence. Si ce slogan provoque une indifférence totale, tu m'as bien appelé en me disant, mais écoutez, il y avait une phrase, citoyen un jour, citoyen toujours, je fais exprès une grosse connerie pour lire. Là, on se serait regardé en disant, ben, c'est pas un slogan, c'est juste rien. Et le slogan, c'est pas rien. Ouais. Maintenant, soit c'est un slogan qui fasse parler, qui soit critiqué, mais au moins qui rentre dans la tête des gens qu'il faut, être citoyen, il faut avoir cette responsabilité commune pour éviter un reconfinement qui sera vraiment catastrophique. Donc, quelque part, voilà, il n'est peut-être pas heureux en termes sémantiques, la dialectique, on va dire, le rythme citoyen, c'est dedans.
Non, mais il se change. Vous savez quoi, Franck Tapiro, vous savez quoi, Arlette Chabot nous disait que tout à l'heure, il était mieux en le chantant. Hein, dedans avec les miens, dehors en citoyen. Vous voulez le chanter, Arlette, non?
Dedans avec les miens, dehors en citoyen. Allez.
Oui, voilà, très bien. Et on mettra une petite musique de rap derrière. Hein, dedans avec les miens, dehors en citoyen. Non mais c'est vrai.
C'est MC Arlette Chabot.
Oui.
Vous savez qu'en termes d'impact, les slogans chantés ont 30% minimum d'impact supplémentaire avec les slogans qui sont lus. Elle a totalement raison. La musique n'est pas assez employée. Les jingles, comme on dit, les slogans chantés en publicité ne sont pas assez employés. Ouais. Comme si ça faisait un peu ringard aujourd'hui, c'est faux. C'est ce qui permet de mémoriser et de faire comme Arlette l'a très bien fait.
Oui, d'autant qu'il y a la suite, hein, puisque il y a après je ne reçois pas chez moi, je ne me rends pas chez les autres, j'aille régulièrement mon logement, etc. Il y a des couplets, oui, non, bah, bien sûr. Quoi. Demain, on fera chanter, aussi Elisabeth Lévy et Éric Revel. Ça y est, Elisabeth, vous l'avez mémorisé ou pas ?
Non mais moi quand même, excusez-moi, le gouvernement doit être très content d'avoir trouvé, on a maintenant un communicant de la communication gouvernementale. Cher Franck Tapiro, votre indulgence me sidère parce que quand on vous écoute, en fait, il n'y a pas de mauvais slogan. Mais du moment qu'on a mis ensemble,
il n'a pas dit ça.
Non, il n'a pas tout à fait dit ça.
Je peux finir, merci. Non mais si, vous me dites, ah bah, du moment qu'on en parle, du moment qu'on en parle, ça ne veut pas dire que c'est un bon slogan. Et celui-là, je vous assure que, un, il est ridicule, parce qu'il nous prend pour des gamins. Je veux dire, alors, c'est vraiment. Dedans, dehors, attention, puis vous mettez bien vos manteaux. Et par ailleurs, je vous assure qu'on n'arrive pas à s'en rappeler, à se le rappeler.
Ah, bah, ça y est, bon. Et Eric, vous vous en souvenez, vous êtes en train de chanter,
juste,
vous.
Je voulais juste résumer et vous dire que j'ai bien compris. Donc, c'est dedans, citoyen, et dehors, avec les.
Les mauvais élèves. Les deux là au fond de la classe avec le radiateur.
Les deux dehors. Et nous on reste dedans.
Nous le
coach
de l'élève 100 fois. Voilà, c'est ça. Et dites donc, faudrait peut-être qu'on le dépose. Faudrait le déposer ce slogan. On va aller à l'INPI, on va le déposer.
Et vous avez vu, que il y a Vincent Trémollet de Villers a tweeté, il y a une plaquette du gouvernement. Sur laquelle il y a écrit cette merveilleuse phrase pour se faire vacciner, prendez rendez-vous.
Bah
et alors il a cité.
C'est un problème
Vous avez raison, Cécile. Alors prendons vite rendez-vous avec les nôtres pour aller dehors.
Et on mangera des haricots et on fera des infarctus.
Merci, merci à Martial qui est avec nous au 0826-300-300.
Franck
Tapiro, conseiller en créativité. Elisabeth Lévy, Arlette Chabot qui a chanté. Alors ça, c'est quand même. Voilà. Très bien, Eric Revel.
Franchement, il y a The Voice. Fabrice.
On va poursuivre sur Sud Radio, dans la bonne humeur, bien sûr aussi, avec un changement de décor, avec Anne Niva, reporter de guerre depuis une vingtaine d'années, qui est allée dans l'ex-bloc soviétique, en Tchétchénie, à Grozny,
en
à
Irak.
Fallujah, en Irak, dans tous ces pays, en Afghanistan, bien sûr aussi, à un moment donné où ce n'était pas aussi simple que ça. C'était extrêmement compliqué. Et c'était une femme, reporter de guerre, dans un milieu qui était plutôt aussi machiste aussi. Mmh. Donc il y a beaucoup de questions à lui poser à partir de cette bande dessinée, Dans la gueule du loup. Elle est avec nous jusqu'à 10h moins le quart. Vous n'hésitez pas, vous appelez 0826 300 300, vous pouvez lui poser des questions.
Et c'est justement le même numéro qu'a fait Raphaël qui nous appelle de Béziers. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Comment
bonjour
ça va
Raphaël.
Ça va et vous?
Bah écoutez, monsieur, moi, mieux que vous,
bah
vous
dormez, Raphaël. Petite voix, Raphaël.
Comment?
Vous êtes au lit?
Non, travailler avec le café.
Ah d'accord, très bien. Donc vous avez bien fait d'appeler au 0826-300-300, vous avez gagné 150 euros en bon d'achat offert par monalbumphoto.fr. Vous allez enfin pouvoir sortir vos photos et les afficher au mur, faire des mugs, des faire-part, des cartes de décoration, bref, la totale. On est heureux de vous l'offrir, on vous fait un énorme bisou. Raphaël.
Oui, merci beaucoup.
Merci d'avoir appelé.
Bon, vous mettrez une petite photo quand même de Cécile, hein, je vous l'enverrai.
Absolument.
D'accord.
Absolument. Au-dessus du lit. Au-dessus du lit. Et dans la salle de bain. Voilà, merci beaucoup.
Attendez, quoi ? Cécile, comme vous y allez.
Mais j'ai le droit de choisir.
Allez, 0826-300-300 aussi, vous pouvez appeler. Vous savez, ce numéro est le vôtre. Parlons vrai sur Sud Radio. Dans un instant,
Anne Niva sera avec nous dans La gueule du loup aux éditions Marabule. À tout de suite.